Voici le journal de Sarah Guibaudot. Bonjour Sarah.
Bonjour. L'offensive turque progresse en Syrie. Notre envoyé spécial Aurélien Colli est entré dans une ville désertée où s'exprime l'amertume des Kurdes et où le groupe État islamique profite du chaos. Nous irons aussi en Équateur en proie à une contestation violente avec l'espoir de renouer le dialogue aujourd'hui. Le Japon sonné après le passage du typhon Agibis. On y revient dans 10 minutes dans le journal des sports puisqu'au départ, nous étions partis couvrir une Coupe du Monde de rugby. En Écosse, la police est avare d'explications après la fausse nouvelle de l'identification de Xavier Dupont de Ligonnès. Un technival sauvage en hommage à Steve Maya Caniço à Nantes. Et au cinéma, la fameuse invasion des ours en Sicile. Très belle adaptation en dessin animé. Votre invité à 8h20, Eric.
Le politologue Pascal Perrineau, spécialiste des droites en France, à propos de l'élection aujourd'hui du nouveau président du Parti Les Républicains.
France Inter.
L'armée turque est entrée hier à Ras Alayn, une ville stratégique du nord de la Syrie. L'offensive d'Ankara et de ses alliés syriens a depuis mercredi jeté sur les routes près de 100 000 personnes et fait une centaine de morts. Notre envoyé spécial Aurélien Colli a pu se rendre à Kamishli, où les Kurdes se disent abandonnés par la communauté internationale et où le groupe État islamique profite de leur déstabilisation.
Il s'appelle Mohamed Kamal, il a la cinquantaine et depuis l'offensive turque, il a vu Kamishli se transformer. Tout fonctionnait, les magasins, les restaurants étaient ouverts. Aujourd'hui, il n'y a plus le bruit d'un enfant. Tout le monde est parti loin de la frontière, explique-t-il. Kamishli n'a pas été bombardé, mais sa périphérie, oui. Une prison aussi, 5 djihadistes se sont évadés et un attentat alors que la ville était sous contrôle. Ils appellent ça les cellules dormantes, elles ont commencé à se réactiver et ça effraie les gens. Soit c'est la Turquie, soit c'est à cause d'elle, même si c'est Daesh qui revendique, accuse Mohamed, qui a déjà fui Afrin début 2018, envahi par les Turcs lors d'une première offensive. Ce que les Turcs font, nous on l'a déjà vu. On sait comment ils procèdent, de quoi ils sont capables, déplore ce père de famille, désabusé aussi par la trahison de l'Occident. Au début, les grands pays étaient avec nous. Ils étaient 70 dans la coalition contre Daesh. On pensait qu'ils nous soutenaient. Malheureusement pas, conclut Mohamed, en soulignant que l'histoire des Kurdes a toujours été celle d'un abandon. À Kamishli, Benjamin Chauvin, Aurélien Colli, France Inter.
Après les Pays-Bas et l'Allemagne, c'est au tour de la France de suspendre ses exportations d'armes vers la Turquie. La reprise des livraisons est conditionnée à l'arrêt de l'offensive turque. La Syrie est au cœur des prix des correspondants de guerre décernés hier à Bayeux. Avec en radio un carton plein pour le service public. Premier prix pour RFI, le troisième pour France Info et le deuxième prix pour notre journaliste Sophie Parmentier et son reportage française Mère et fille dans une prison de Bagdad.
Ce n'était donc pas Xavier Dupont de Ligonnès.
L'homme arrêté vendredi à l'aéroport de Glasgow a été relâché hier. Il n'a rien à voir avec celui qui est suspecté d'avoir massacré sa famille à Nantes il y a 8 ans. Plusieurs sources haut placées nous ont induits en erreur, même si nous vous faisions part aussi des doutes qui nous étaient apparus quelques heures plus tard. Les empreintes digitales n'avaient donc pas matché. La méthode est fiable, mais la correspondance n'était finalement que partielle. Et en Écosse, aucune explication n'a encore été donnée sur ce problème de communication, Cécilie Corso.
Si l'homme interpellé avant-hier à l'aéroport de Glasgow est libre aujourd'hui, il reste encore à éclaircir la raison pour laquelle il s'est retrouvé en garde à vue. Le communiqué de la police écossaise d'hier n'avait pas de réelle réponse, pas même un début d'explication. Une simple confirmation que non, l'homme interpellé n'était pas celui recherché par les autorités françaises. Quelques mots pour la famille qui ne souhaite pas être contactée par les médias. Alors comment cet homme innocent a-t-il pu être interpellé à son arrivée à l'aéroport sur la base d'une dénonciation anonyme? Qui est responsable de ces relevés d'empreintes digitales erronées? Un coup positif, un coup négatif? La police écossaise devra en répondre à un moment ou un autre. Glasgow, Cécilie Corso, France Inter.
Depuis hier midi, plusieurs médias s'expliquent auprès de leur public. Nous aussi, la chronologie d'un emballement policier et médiatique est à lire sur franceinter.fr. La crise sociale que traverse l'Équateur a atteint des sommets hier. Une grève générale a été déclenchée il y a 11 jours après l'annonce de mesures pour obtenir un prêt du FMI, comme la suppression des subventions qui devraient doubler les prix des carburants. Le mouvement indigène à la pointe de la contestation a accepté l'offre de dialogue du pouvoir. Mais hier, le couvre-feu a été décrété dans la capitale, Quito, après des scènes de saccage. À Quito, Éric Sanson.
Les affrontements se sont poursuivis toute la journée autour de la maison de la culture où sont retranchés les manifestants indigènes. Si la police et les militaires ont réussi à bloquer le passage des manifestants vers l'Assemblée nationale, ils n'ont pas pu éviter que l'immeuble de l'inspection générale des finances soit envahi et en partie brûlé. Les documents de nombreuses enquêtes sur de possibles cas de corruption, notamment du régime de l'ancien président Rafael Correa, se sont retrouvés éparpillés dans la rue, abîmés par l'eau et le feu. Toutes les voies d'accès de la capitale sont bloquées, ainsi que la majeure partie des avenues principales, jonchées de restes de barricades. Toutes les nuits, les ouvriers de l'entreprise municipale de nettoyage retirent de 5 à 8 000 tonnes de décombres ayant servi de refuge ou d'armes improvisées. Samedi, des agitateurs à pied ou en moto ont terrorisé les habitants et obligé les commerces à fermer leurs portes. D'autres ont attaqué le quotidien El Comercio et la chaîne de télévision Telemasonas. Les organisations indigènes ont accepté de négocier ce dimanche à 15h avec le président de la République qui a décrété un couvre-feu indéfini dans la capitale. Quito, Éric Sanson, France Inter.
Un technival, une fête avec de la musique techno s'est installée ce week-end sans prévenir dans la banlieue de Nantes. Le rassemblement se poursuit aujourd'hui à Sainte-Luce-sur-Loire. Il se veut en hommage à Steve Maya Canisso dont le corps avait été retrouvé dans la Loire après la fête de la musique l'année dernière. Hier, il y avait près de 10 000 personnes venues parfois de loin, Fabrice Hawkins.
Une centaine de sonos, 2000 voitures de tuffers comme ils s'appellent, tout ça sur un espace grand comme deux terrains de football. Les jeunes viennent de toute l'Europe pour rendre hommage à Steve. Il y a un grand drapeau sur la caravane de Francesca.
Italy.
Comme ses trois copines, Francesca vient de Florence. Elle est touchée par l'histoire du jeune Nantais.
I see the story of Steve.
J'ai vu l'histoire de Steve sur Internet. Steve, c'était un jeune garçon comme toi ou moi. C'est pour ça qu'on fait cette grosse fête. Et ça ne concerne pas seulement les Italiens, les Français ou les Allemands, ça touche toute l'Europe.
Et même à 1400 km de chez elle, les jeunes Italiennes ont des connaissances, comme Eva, une Nantaise de 22 ans.
Eva, Anna ! Ça va ?
Ça va bien ?
Ça va et toi ?
Tutto bene !
Vous les connaissez ?
Un petit peu, d'une teuf avant, dans le Rhône-Alpes, au col de Cary.
Comment vous vous êtes retrouvés ici ?
On s'est envoyé un message et là, par pur hasard, on s'est croisés.
C'est la connexion de tous les teufeurs de France ?
Europe.
Comment vous l'expliquez ? Pourquoi ils sont tous réunis aujourd'hui ?
Bah pour rendre hommage à Steve, tout simplement. C'est un lien en fait qu'on a entre nous, c'est on a un petit peuple et ça s'arrêtera pas, c'est pas prêt de se finir.
Pour Eva comme pour d'autres, faire la fête, peu importe les interdictions, c'est le meilleur moyen de rendre hommage à Steve.
Fabrice Hawkins de France Bleu, Loire-Océan. Une marche blanche est organisée ce matin en Seine-Saint-Denis entre le Pré Saint-Gervais et les Lilas où un adolescent de 15 ans a été tué la semaine dernière. Kiwi a été poignardé à l'entrée d'un stade où se tenaient des cours de PS. Trois garçons de 14 et 15 ans ont été mis en examen et incarcérés. Ce matin dans le Parisien, le ministre de l'Éducation nationale promet de publier les chiffres de la violence scolaire département par département. Il y a chaque jour entre 20 et 30 incidents graves, estime Jean-Michel Blanquer, qui va recevoir la famille de la victime des Lilas. Quand les ours du roi Léonce prennent le pouvoir, ceux qui connaissent le livre de Dino Buzzati, la fameuse invasion des ours en Sicile, mesurent à quel point l'adapter en dessin animé semblait une gageure. Eh bien, le pari est réussi pour l'illustrateur Lorenzo Mattotti avec ce film réalisé entièrement en France, Corinne Pellissier.
Allez, allô ! Pas des yeux et...
Personne jusqu'ici n'avait montré la Sicile sous un tel angle, rempli de couleurs, de montagnes enneigées, de sangliers volants. Un tourbillon féerique pour une histoire qui l'est en revanche beaucoup moins. L'enlèvement du jeune Tonio, le fils du roi des ours, par des chasseurs, bien décidés à le livrer à celui qui règne en maître au pays des hommes. Une histoire écrite à la sortie de la guerre en 45, jamais adaptée jusqu'ici, mais devenue depuis un classique de la littérature jeunesse.
Avec moi le clan.
Des bêtes sauvages vont descendre des montagnes pour envahir la Sicile.
Une invasion
d'ours. Massacrez-les !
La fameuse invasion des ours en Sicile est d'abord une émouvante histoire de sauvetage remplie de combats épiques et de magie. Mais pour les plus grands, c'est aussi la métaphore d'une société humaine peu tournée vers l'autre et qui se perd dans le pouvoir. Un récit dont l'illustrateur Lorenzo Mattotti s'empare avec beaucoup d'humour à travers des personnages hauts en couleur, à commencer par ses ours et leurs silhouettes stylisées. Le dessin est soigné et le film, entièrement réalisé dans un studio d'Angoulême, est à la hauteur du succès de l'œuvre de Dino Buzzati.
La fameuse invasion des ours en Sicile avec les voix de Jean-Claude Carrière, Leïla Bekti et Thierry Ancis, c'est au cinéma cette semaine.
C'était le journal de Sarah Guibaudot.